le monde aujourd'hui. Jean-Roger Bion à ce micro au sommaire de cette édition du mardi 19 mars 2024. Les efforts des médiateurs s'intensifient ce mardi pour parvenir à une trêve dans la bande de Gaza. Washington dit attendre des éclaircissements de Niamey après l'annonce par la junte au pouvoir de la rupture de sa coopération militaire avec les États-Unis. Au Sénégal, coup de projecteur sur Amadou Ba, candidat de la coalition au pouvoir à la présidentielle de dimanche. Force et faiblesse de l'ancien premier ministre de Macky Sall dans la partie magazine. À RDC, le journaliste Anis Boujakera doit en principe sortir de prison aujourd'hui après sa condamnation. Il y a 6 mois de prison, une peine déjà purgée par l'homme de médias. La Libye a fermé aujourd'hui son principal poste frontalier avec la Tunisie. Après des affrontements entre groupes armés, ne manquez pas notre journal, notre page de sport, ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Les efforts des médiateurs s'intensifient ce mardi pour parvenir à une trêve dans la bande de Gaza au bord de la famine. L'armée israélienne poursuit par ailleurs pour la 2e journée des opérations précises pour contrecarrer le terrorisme dans le plus grand complexe hospitalier Al-Shifa de Gazaville. Le point avec Eric Manirakiza.
Après des mois d'efforts infructueux des médiateurs, à savoir les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, le chef des services de renseignement israélien a quitté Doha ce mardi. Mais des équipes techniques continuent de discuter des détails d'un éventuel accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, qui s'est déclaré prudemment optimiste. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit entamer demain mercredi une nouvelle tournée régionale en Égypte puis en Arabie Saoudite, dans le cadre des efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et augmenter l'aide humanitaire. ONG, agence de l'ONU, continue de tirer la sonnette d'alarme sur le risque de famine dans le territoire assiégé, devenu un cimetière à ciel ouvert, selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Israël, en tant que puissance occupante, a l'obligation d'assurer la fourniture de nourriture et de soins médicaux à la population en fonction de ses besoins et de faciliter le travail des organisations humanitaires pour fournir cette assistance, souligne pour sa part le haut-commissaire des droits de l'homme.
Joe Biden, en quête d'un second mandat, est parti ce mardi faire campagne dans le Nevada et l'Arizona, états qui seront certainement décisifs lors de son face-à-face en novembre avec Donald Trump sur ces terres de l'ouest des États-Unis où la proportion d'habitants hispaniques ne cesse de croître. Le président américain doit endiguer l'érosion de sa popularité auprès d'un électorat historiquement démocrate, mais de plus en plus séduit par son rival républicain, Donald Trump. Après le Nevada, Joe Biden se rendra dès ce soir dans l'Arizona, théâtre en 2020 de l'une des batailles les plus acharnées de la dernière présidentielle. Les États-Unis ne laisseront pas l'Ukraine échouer, a promis aujourd'hui en Allemagne le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin, malgré le blocage d'une aide américaine au Congrès dans un contexte de pénurie d'armes des troupes de Kiev. Il s'exprimait à l'ouverture d'une réunion du groupe de contact des alliés de l'Ukraine, chargé de coordonner le soutien militaire au pays sur la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne. L'ONU a sonné l'alerte ce mardi sur le réchauffement de la planète qui a atteint un record en 2023. C'est ce que montre en tout cas un rapport publié par l'Organisation internationale de la météorologie. La couverture glaciaire en Antarctique a diminué d'1 million de kilomètres carrés, environ la taille de l'Égypte. Ce que nous avons observé en 2023 doit inquiéter, notamment le réchauffement des océans, le recul des glaciers, la fonte des glaces antarctiques, a déclaré la secrétaire générale de l'institution, Céleste Saulo, en poste depuis janvier. La coopération militaire entre les États-Unis et le Niger est mutuellement bénéfique, a estimé lundi Washington, qui a indiqué attendre des éclaircissements après l'annonce par la junte au pouvoir d'y mettre fin. Davantage avec Alexandrine Oulignon.
Nous sommes en contact avec les autorités de transition pour obtenir une clarification de leurs commentaires et pour discuter des futures étapes. a expliqué Vedant Patel, porte-parole du département d'État américain. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, en visite aux Philippines mardi, a insisté sur les préoccupations des États-Unis concernant le Niger et sur la poursuite des négociations avec les dirigeants de ce pays. La semaine dernière, une délégation de haut niveau de fonctionnaires américains, dont la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molly Fee, la secrétaire d'État adjointe à la défense pour les affaires de sécurité internationale, Celeste Wallander, et le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, le général Michael Langley, s'est rendu au Niger pour rencontrer des membres de la junte militaire. Les États-Unis comptent quelques 1000 soldats au Niger et disposent d'une importante base de drones à Agadez, dans le nord du pays. Le Pentagone dit travailler avec les autorités nigériennes pour trouver un moyen de maintenir les troupes américaines dans le pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité africaine, au Nigeria, la justice a refusé ce mardi la libération sous caution du dirigeant séparatiste Nnamdi Kanu et a ordonné plutôt un procès accéléré pour le juger des accusations de terrorisme qui pèsent contre lui et qu'il nie. Kanu, qui est aussi citoyen britannique, dirige le mouvement interdit du peuple indigène du Biafra, qui milite pour la sécession du sud-est du Nigeria, peuplé principalement par l'ethnie Igbo. Je répondrai à toutes les accusations et la Cour verra que ce ne sont que des mensonges, a déclaré M. Kanu. L'ouverture du procès doit avoir lieu le 17 avril. Ses avocats estiment qu'il ne peut pas bénéficier d'un procès équitable au Nigeria parce qu'il avait été extradé de force du Kenya. En Afrique du Sud, un petit parti du Cap prône le séparatisme, connu sous le nom de Capzit, en référence au retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ce parti milite à moins de 3 mois des élections générales en Afrique du Sud pour l'indépendance de la région du Cap. Un sondage l'an dernier indiquait que 68% des électeurs de la province sont favorables à un référendum sur l'indépendance et que plus de la moitié d'entre eux voteraient pour. Quelque 27 millions et demi de Sud-Africains sont appelés aux urnes le 29 mai pour renouveler leur parlement qui désignera le prochain président. La justice congolaise a condamné lundi à 6 mois de prison le journaliste Anis Boujakera, détenu depuis septembre dernier. Ses avocats s'occupent ce mardi des formalités pour qu'il sorte de prison. Dilidiko.
Stanis Boujakera a été condamné à 6 mois de servitude pénale et à une amende d'1 million de francs congolais, soit 400 dollars. Correspondant à Kinshasa du magazine Jeune Afrique, il a été arrêté en septembre et jugé pour un article non signé de son nom ayant mis en cause les renseignements militaires dans la mort de l'opposant Chérubin Okende. Le ministère public a requis 20 ans de prison contre le journaliste, mais les juges ont statué contre cet avis. Ils ont cependant maintenu qu'il est l'auteur d'un faux rapport et estimé qu'il a voulu jeter le discrédit sur les institutions de la RDC. Quel que soit le verdict, a déclaré Chivis Chivwadi, secrétaire général de la JED, journaliste en danger à Kinshasa, l'histoire retiendra que Stanis Boujakera est innocent et que ce procès a été un procès politique. Maître Jean-Marie Kabengela, un des avocats de Stanis Boujakera, a déclaré après le rendu de la décision que dès que le paiement de l'amende sera effectué, notre client va recouvrer la liberté. Il a précisé que ce mardi, ils vont procéder aux formalités pour qu'il sorte, en attendant d'envisager de faire appel.
Gabon, le sous-comité de l'ONU pour la prévention de la torture, s'est dit préoccupé par les conditions de détention déplorables dans les lieux de privation de liberté au Gabon dans un communiqué publié ce mardi à la suite d'une visite dans le pays. Le SPT exhorte le pays à s'attaquer de toute urgence à la surpopulation et aux horribles conditions dans les prisons et les lieux de garde à vue, écrit Abdallah Oni, le chef de la délégation de 5 personnes qui s'est rendu au Gabon du 10 au 16 mars. La Libye a fermé aujourd'hui son principal poste frontalier avec la Tunisie après des affrontements entre groupes armés et forces de sécurité du côté libyen de la frontière, a annoncé le ministère de l'Intérieur à Tripoli. Les détails avec Nani Talani.
Le ministère indique avoir ordonné la fermeture immédiate du poste frontière de Ras Jedir à la suite d'une attaque menée par des groupes hors la loi impliqués notamment dans des activités de contrebande. Cette fermeture vise à permettre la mise en place de dispositions sécuritaires et à assurer son bon fonctionnement sous l'autorité de l'État, d'après le communiqué du ministère. Le ministre de l'Intérieur, Imad Trabelsi, a chargé hier la force de l'application de la loi rattachée à son ministère d'intervenir à Ras Jedir afin de combattre la contrebande et les abus et assurer la sécurité des voyageurs. Des affrontements armés ont éclaté lundi entre les groupes qui contrôlaient de facto ce poste frontalier et les forces de sécurité envoyées par Tripoli. Ras Jedir est le principal point de passage entre l'ouest de la Libye et le sud-est de la Tunisie, un territoire qui vit en grande partie du commerce transfrontalier, y compris de contrebande. La fermeture de ce poste interrompt le passage des marchandises dans les deux sens, mais également le déplacement de nombreux ouvriers tunisiens qui travaillaient en Libye et celui des Libyens se rendant en Tunisie, notamment pour s'y faire soigner.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Alexandrine Olonia.
Le boom de l'intelligence artificielle a frappé de plein fouet le marché des crypto-monnaies. La progression de nombreux jetons cryptographiques liés à l'intelligence artificielle a même dépassé celle du Bitcoin au cours de l'année écoulée. Leur valeur de marché combinée est passée de 2,7 milliards de dollars en avril dernier à 26,4 milliards de dollars selon les données de CoinGecko. Le groupe de la Banque mondiale a déclaré lundi son intention de fournir une aide de plus de 6 milliards de dollars au cours des trois prochaines années à l'Égypte, qui est aux prises avec une pénurie de devises et des déficits budgétaires. Cette annonce fait suite à la signature par l'Égypte le 6 mars d'un accord de prêt avec le Fonds monétaire international. Move, une fintech africaine fondée au Nigeria, spécialisée dans la mobilité, vient de lever 100 millions de dollars lors d'un dernier tour de table de financement, ce qui valorise l'entreprise à 750 millions de dollars. Lancée en 2020, la société utilise un système de notation de crédit pour financer l'achat de nouveaux véhicules pour le covoiturage, la logistique et les livraisons.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Des nouvelles des Jeux africains qui se déroulent à Accra, au Ghana.
Oui, dans le football féminin, en demi-finale, la sélection des moins de 20 ans féminine du Ghana a disposé hier de celle du Sénégal 3-1. Dans l'autre demi-finale, le Nigeria a battu l'Ouganda 2-0. Les Black Princesses vont jouer la finale contre le Nigeria ce jeudi 21 mars. Sénégalaises et Ougandaises vont s'affronter toujours jeudi pour la médaille de bronze. Ce soir, chez les hommes, toujours en demi-finale, le Ghana et le Sénégal seront aux prises. Dans l'autre demi-finale, l'Ouganda, qui a dominé le groupe A avec 9 points pris en 3 matchs, va affronter le Congo.
Au Maroc, Brahim Diaz accueilli en grande pompe à Rabat.
L'attaquant du Real Madrid, qui a été convoqué pour la première fois par le Maroc, a été envahi hier par des médias locaux et étrangers à son arrivée à l'aéroport de Rabat. Avec les Lions de l'Atlas, Brahim Diaz va disputer deux matchs amicaux le 22 mars contre l'Angola et le 26 contre la Mauritanie. Comme lui, de nombreux binationaux ont accepté d'évoluer avec la sélection marocaine. Depuis Casablanca, Amine Birouk nous parle de ces binationaux qui ont opté pour leur pays d'origine.
Le choix de Brahim Diaz pour son pays d'origine avait créé une polémique en Espagne. Elle avait poussé les journalistes à mettre en difficulté le sélectionneur Luis de la Fuente. Et le joueur avait même accompli un exercice de communication dans le courant de la semaine pour expliquer son choix. Il y aura également d'autres jeunes issus du football espagnol. Je pense en particulier aux jeunes du Real Madrid de junior, Youssef El Khedim, 18 ans, qui découvrira l'ambiance d'un groupe professionnel, une sélection nationale quatrième de la dernière Coupe du Monde. Il y a sa hommage de Villarreal, le retour du virevoltant Soufiane Rahimi qui marche sur l'eau en Champions League asiatique avec son club émirati de l'Ain. Et donc voilà, un air de changement, un air de renouveau dans cette équipe du Maroc.
Merci Amine Birouk.
Ici en NBA, les Knicks renvoient les Warriors à leurs doutes pendant que les Lakers rebondissent.
Vainqueurs samedi à Los Angeles, les Golden State Warriors n'ont pas réussi à enchaîner dans leur salle face aux Knicks. Les New Yorkais se sont imposés 119-112 malgré les 27 points de Stephen Curry. Avec cette 18e défaite à domicile de la saison pour 17 victoires, Eh bien, Golden State redescend à la 10e place à l'ouest. De son côté, avec 27 points d'Angelo Russell, 25 de LeBron James et 22 d'Anthony Davis, les Los Angeles Lakers ont disposé d'Atlanta dans sa salle 136-105. Ils profitent du même coup du faux pas des Warriors pour leur repasser devant.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les États-Unis n'excluent pas de maintenir leur présence militaire au Niger, malgré la déclaration des militaires au pouvoir qui ont annoncé qu'ils mettent fin à un accord autorisant la présence de forces américaines dans leur pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Davantage avec Jeff Seldin, correspondant de la VOA au Pentagone, le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Quelques jours après que les militaires au pouvoir au Niger ont demandé aux forces américaines de quitter leur pays, 1 million de soldats américains et d'autres membres du personnel militaire se trouvent toujours sur place.
Nous travaillons par voie diplomatique pour obtenir des éclairages.
Sabrina Saint, attachée de presse adjointe au Pentagone.
Je n'ai pas de calendrier de retrait des forces.
Selon Mme Saint, malgré l'annonce par Niamey de la révocation immédiate de l'accord autorisant les forces américaines à opérer au Niger, les responsables américains n'ont toujours pas reçu de délai précis.
Nous souhaitons que notre partenariat se poursuive s'il existe une voie à suivre.
Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
En ce qui concerne le Niger, nous avons clairement indiqué au Niger, y compris très récemment, que nous avions un certain nombre de préoccupations très réelles dans plusieurs domaines et que nous étions troublés par la voie dans laquelle le Niger s'était engagé. Nous sommes en contact. Nous restons en contact avec le CNSP et nous discutons avec lui de la voie à suivre.
Vinette Patel, porte-parole du département d'État, indique que ces discussions passent par l'ambassade des États-Unis et que Washington estime avoir des arguments solides.
Nos partenariats de sécurité avec les partenaires d'Afrique de l'Ouest sont mutuellement bénéfiques et visent à atteindre ce que nous croyons être des objectifs communs de détection, de dissuasion et de réduction de la violence terroriste et de création d'environnements propices au développement économique et social.
Les forces américaines au Niger sont essentiellement en attente, toutes les opérations antiterroristes étant suspendues depuis le coup d'État de juillet dernier. Mais les services de renseignement américains sont de plus en plus préoccupés par le fait que les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique se développent, ce qui accroît le risque pour le Sahel et au-delà. Les Américains craignent aussi que leur départ n'ouvre la voie à l'installation d'adversaires tels que la Russie et l'Iran. Ces préoccupations semblent avoir irrité les militaires au pouvoir au Niger lors d'une récente série de pourparlers et qui pourraient avoir motivé l'expulsion des États-Unis. Cependant, le message de la Maison-Blanche est qu'il y a encore de l'espoir.
Nous sommes en contact avec eux.
Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan.
Je m'en tiendrai là, car les discussions avec les autorités nigériennes se poursuivent.
Si les forces américaines doivent quitter le Niger, les responsables du Pentagone affirment qu'il existe d'autres solutions, même si certains d'entre eux craignent que les autres bases potentielles ne soient pas aussi pratiques pour lutter contre la menace terroriste.
Alexandrine Cronogno avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Niger rompt sa coopération militaire avec les États-Unis. La junte au pouvoir à Niamey a dénoncé samedi, avec effet immédiat, l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012, affirmant que la présence américaine était illégale. Les États-Unis comptent quelques 1100 soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste dans le pays et disposent d'une importante base de drones à Agadez. Quelles implications en termes de sécurité nationale pour le Niger? Quels sont les possibles scénarios futurs en termes de relations diplomatiques entre le régime militaire et les États-Unis? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Amadou Ba, le successeur trié sur le volet du président sénégalais Macky Sall, pourrait faire face à une bataille difficile le dimanche 24 mars lorsque le candidat, autrefois favori, affrontera 18 autres candidats à la présidentielle sur fond de divisions internes au sein de son parti et d'inquiétudes concernant son manque d'expérience électorale. Plus de détails avec Blanche Sanou.
Nous avons surmonté les obstacles.
Le président Macky Sall a choisi Amadou Ba comme candidat de la coalition au pouvoir, Benoît Bokyakar, après un processus de consultation à l'échelle du parti. Ancien ministre de l'économie et des affaires étrangères, Amadou Ba, 62 ans, a été nommé premier ministre en septembre 2022 après avoir dirigé la direction des impôts. Macky Sall, M. Ba serait une figure unificatrice. Écoutons Amadou Ba.
Mais la paix que nous recherchons, si nous parvenons à la consolider, l'unité que nous voulons, si nous parvenons à rétablir cette unité, on sera au-delà des 1 million d'emplois que je viens de parler.
Mais les analystes affirment qu'il existe des divisions au sein du parti Benoît Bokyakar, qui a perdu des villes-clés lors des élections locales de 2022 et un certain nombre de sièges aux élections législatives de 2023. Ces divisions ont été aggravées quand Macky Sall a proposé de reporter les élections. Division ou pas, Amadou Ba tente de convaincre les Sénégalais. Certains membres s'inquiètent du fait que M. Ba n'a jamais participé à une élection présidentielle, contrairement à la plupart de ses principaux opposants, et qu'il a eu du mal à susciter le même enthousiasme que d'autres dans le vaste champ des candidats. Amadou Ba, candidat à l'élection présidentielle.
J'avais toujours pensé que c'était des aventuriers.
Amadou Ba, comme les 18 autres candidats, a choisi de s'adapter au plus vite, réajuster sa stratégie et accélérer le calendrier. La campagne qui a commencé le samedi 9 mars s'achève le 22 à minuit. Macky Sall quittera la présidence après l'élection du 24 mars.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Pour contourner les coupures intempestives de la société énergie du Mali, les Bamakois se tournent de plus en plus vers des solutions alternatives. Il s'agit entre autres des panneaux solaires, des groupes électrogènes et des batteries rechargeables. Le reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko, qui a fait un tour au marché de Dibidani à Bamako.
10h du matin ce lundi, le thermomètre affiche déjà 35 degrés à l'ombre. Les ronronnements des groupes électrogènes au marché Dibidani de Bamako témoignent du manque de courant dans la zone. Dans sa boutique de vente de groupes électrogènes, Ségué Babadji et ses collègues guettent l'arrivée des clients. Leur activité connaît une forte croissance depuis qu'Énergie du Mali peine à fournir correctement l'électricité. Nous ici, nous vendons des groupes électrogènes et ça marche, surtout que l'énergie du Mali n'arrive pas à fournir le courant correctement au Mali. Beaucoup vendent des panneaux solaires et des batteries, mais nous, notre commerce de groupes électrogènes se porte à merveille. Non loin de là, à Bamako Koura, la boutique de vente de panneaux solaires de Tonkara ne désemplit pas. Les clients embarquent plusieurs plaques de panneaux. Journaliste de formation, Aïssé Tonkara, sa fille, vient lui prêter main forte.
Alors que nous, on gère pas mal. Et vu qu'on a amené beaucoup de panneaux, peut-être pas suffisamment pour satisfaire toute la demande, mais c'est assez quand même. Il y a les panneaux, il y a les batteries lithium, il y a les convertisseurs. En gros, tout ce que vous devrez avoir besoin pour une bonne installation de vos panneaux.
Il n'est que midi et Kossa Maïga, journaliste, a déjà recours à son powerbank pour recharger sa batterie. Pour lui, le powerbank, les batteries rechargeables et les groupes électrogènes sont indispensables aujourd'hui dans la capitale.
Powerbank, les batteries, les groupes électrogènes sont vraiment indispensables ici aujourd'hui au Mali.
Donc, c'est des matériels qui nous permettent de nous donner de l'électricité en cette période accrue de délestage. C'est comme un moyen de nous dépanner pour faire passer les heures sombres du délestage.
Ce marché fleurissant n'est pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui, EDM a rendu public une nouvelle programmation de fourniture de courant. Ainsi, au lieu des 12 heures promis par jour par son directeur à la veille du Ramadan, la société ne va fournir que 7 à 8 heures de courant par jour. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
La diversité et l'unité caractérisent la célébration de l'Iftar, le repas quotidien de rupture du jeûne, durant le mois saint du Ramadan. Nous sommes allés à la rencontre des membres d'une communauté musulmane, non loin de Washington DC, alors qu'ils se rassemblaient avec des invités de divers pays pour partager ce moment spécial. C'est un reportage de Sims Loumami, le récit Alexandrine Ollognon.
C'est dans une ambiance chaleureuse et remplie de générosité que des membres de la communauté musulmane de Potomac, dans l'État américain du Maryland, se retrouvent pour marquer ensemble l'Iftar. Ce repas de rupture du jeûne symbolise à la fois leur foi et la richesse de leur diversité culturelle. Mamadou Niang est un fidèle musulman.
On est là, on se prépare pour couper le jeûne, donc on va manger des dattes et prendre de l'eau. Et après, on va partir dedans pour prier. Après ça, on va prendre le dîner. Après le dîner, on va prier encore. Et après ça, on va partir à la maison.
L'Iftar transcende les frontières et met en avant la diversité des cultures. Les participants partagent des plats typiques des pays représentés au sein de leur communauté. Cette semaine, ils ont eu l'occasion de découvrir et déguster des plats sénégalais. Adja Koïté est propriétaire d'un restaurant.
Puisqu'il s'agit d'une communauté diversifiée, nous essayons de présenter les différentes cultures à tout le monde. Comme aujourd'hui, c'est la journée sénégalaise. Ainsi, nous avons la cuisine sénégalaise, notamment le yassa et les beignets qui sont considérés comme un dessert. Vous pouvez aussi les utiliser comme du pain.
Lors de cette occasion spéciale, l'accent est mis sur le partage qui illustre l'unité au sein de cette communauté.
Nous apprenons les cultures respectives des uns et des autres pendant le mois du Ramadan. Une partie de cela est religieuse. Vous savez, nous nous réunissons pour prier, nous nous réunissons pour rompre notre jeûne. Mais il y a aussi une composante culturelle à cela. Les gens célèbrent ensemble et partagent un repas ensemble. Ainsi, nous voulons qu'ils fassent l'expérience d'une communauté très ouverte, très accueillante, très chaleureuse. Et c'est ça le Ramadan.
Yassine Belkodja, un des membres de la communauté, en profite pour évoquer la contribution du centre musulman de Potomac à la lutte contre le réchauffement climatique en protégeant l'environnement.
Nous avons décidé il y a quelques années déjà de n'utiliser uniquement des assiettes, des fourchettes, des couteaux, des verres qui sont compostables. C'est-à-dire qu'on essaie de minimiser au maximum notre impact sur l'environnement. Tout ce qui reste des repas sont réutilisés et transformés en terre qui peut après retourner pour protéger l'environnement.
Des membres de la communauté disent également prier pour les nombreuses personnes prises au piège de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Khaled Kabara est un fidèle musulman.
C'est un Ramadan différent car nous pensons à tous nos frères et sœurs palestiniens et plus spécifiquement à ceux et à celles de Gaza. Et nous espérons que ce Ramadan leur apportera un soulagement et mettra fin à la misère qu'ils endurent, Inch'Allah. Mais à part cela, c'est un mois formidable et de grandes bénédictions.
Sur fond de rire et de conversation, parents, enfants et amis dégustent le repas traditionnel sénégalais. Il s'agit pour eux d'une belle expérience permettant à toutes ces personnes de cultures différentes de se réunir pour célébrer l'Iftar et démontrant que l'unité dans la diversité est au cœur du Ramadan.
monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.